Radio Grand Air.
J'ai glissé, chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me fends le cœur.
Si je connaissais le camp qu'a fait son tel bon.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites-donc.
C'est jamais son jour.
Il n'y a pas d'hélice, c'est là.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Le 7e art à l'honneur sur votre radio comme chaque semaine dans votre émission En Tract. Avec nous, Pascal de la Brèche. Comment vas-tu, Pascal?
Super bien. Et toi, Christophe?
Ça va très bien. Et tout d'abord, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Oui, bonne année.
On ne s'était pas revu depuis.
On ne s'était pas revu, effectivement. Oui, c'est vrai que j'ai un peu déserté la radio. Mais parce qu'on avait énormément de travail à la Brèche, je t'avouerai que...
Voilà, tu avais une chaise gardée.
J'ai pas eu trop le temps de faire mes papiers, tout ça. Donc, désolé.
Avec plaisir, on te reçoit sur la radio cette semaine avec là aussi une belle rentrée qui s'annonce pour 2024. Et un joli programme que tu nous as présenté tout d'abord.
Absolument.
Je laisse le mot de départ
quand même,
de l'émission.
On va dire bonjour aux auditeurs, bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio Grand Air. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce numéro 91 dans Tract.
Voilà, c'est dit. Alors cette semaine, un sommaire avec aussi un invité à la Brèche.
Oui, des invités. Ah oui, on va en parler tout à l'heure, évidemment. Oui, on va avoir un acteur et surtout un réalisateur.
Eh oui.
À la Brèche qui se déplace la première fois. Alors c'est pas la première fois que certains acteurs se déplacent à la Brèche, mais alors là, c'est quand même c'est chouette parce que c'est pour une avant-première. Mm-hmm. On va parler de Maxime Gasteuil. Mais avant, on va quand même parler de 14 jours pour aller mieux, ça sera une avant-première, le film sort le 6 mars.
D'accord, donc vous êtes les premiers,
on est premiers,
les foyens,
en Gironde, les premiers... Oui, alors on est les premiers au pays foyen, mais après on n'est pas les premiers en Gironde. Hein. Ouais. Il va faire une petite tournée du côté de Libourne et dans d'autres cinémas. Hein. Et voilà, mais il faut savoir une chose, c'est que Maxime Gasteuil est originaire du coin.
Voilà, absolument.
Il est de 7 millions.
Oui, donc il vient pas de très très loin.
Ben là, il vient de Paris, mais oui, sinon, non, là, il est originaire d'ici. Hein.
D'accord.
Donc voilà, il nous fait l'honneur de se déplacer un petit peu avec toute l'équipe de la distribution, de Wild Bunch Distribution, ainsi que Monsieur Pluvieux, donc, qui est le réalisateur du film. Donc il sortira le 6 mars. Donc alors, ici, on a la chance d'avoir l'avant-première, ils vont venir nous parler de son film. Qui va sortir donc le 6 mars, une comédie française qui a l'air pas mal. Moi j'ai vu le film annonce, moi j'aime bien, franchement. Mm-hmm. Il y a une bonne distribution, il y a Zabou Breitman, Lionel Abelansky et bien d'autres. Et non, ça me plaît bien, j'ai bien aimé le film annonce, ça m'a bien fait marrer déjà. Donc
oui,
je pense que le film
peut-être
pas mal.
Voilà, on rappelle que Maxime Gasteuil est un humoriste à l'origine. Hein,
à la base, oui, c'est un humoriste. Alors moi je connaissais pas trop, je t'avouerai, puisque je regarde pas trop la télé. Donc je me suis penché un petit peu sur son parcours. Alors j'ai pas fait une fiche spéciale Maxime Gasteuil, mais je regardais un petit peu ce qu'il faisait au niveau humoristique, parce qu'on peut retrouver quand même certaines archives dans YouTube et tout. Voilà, ouais. ça m'a permis de comprendre un petit peu le bonhomme, quoi. Mais on va parler chiffres.
Et
on
oui, c'est important. Voilà, de commencer l'émission. Là, tu nous as fait un petit bilan de l'année 2023, la fréquentation notamment, et ce qui a le plus marché à la Brèche.
Alors j'ai pas fait le diagramme des films. Non, ça j'ai pas fait. Je vais laisser peut-être Laura le faire un jour.
Oui, on va la recevoir
dans l'émission et puis on nous parlera de tout ça. Quoi. Non, je parle uniquement de chiffres.
Hein. Ouais.
Mais déjà les chiffres nationaux ils sont très bons. Enfin ils sont bons. On n'est pas revenu au niveau avant 2019, c'est-à-dire avant le Covid. Hein. Mais ça reprend quand même la route, quand même des bons résultats, on va dire à venir. Hein. La fréquentation, on va dire nationale, elle est à rapport à l'an dernier, elle a fait plus 30, aux alentours de 30% hein, au niveau national. À la Brèche, nous, on est au-delà, on est au-dessus des 30%, on est à 30,44, on est au-dessus de la moyenne nationale, ce qui est très bien déjà pour le bassin foyer.
Hein. Je oui, surtout vraiment, qu'on vraiment est super. En milieu semi-rural, on va dire, hein, bah donc oui, c'est oui. Important pour notre région.
Donc j'ai récupéré un petit peu les chiffres de 2019 à 2023. Alors en 2019, on a fait 15 300 de rentrées. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est pas beaucoup. Eh bien oui, mais c'est normal, il y a eu le Covid.
C'est vrai, mais
donc on a fait quand même 15 000 entrées ouais, de novembre 2019 à mars 2020.
Ouais.
Tu vois, la période est courte, on avait déjà fait là, 15 000 entrées. Ça veut dire que au niveau de l'ouverture, c'était fantastique. On avait fait vraiment beaucoup d'entrées. Et donc c'était prometteur, si tu veux. Et le Covid a tout ravagé, si tu veux.
Oui,
il a ravagé la Brèche, il a ravagé le cinéma
production,
national.
Les productions, les enregistrements, enfin les... voilà, les films se sont mis à l'arrêt, hein, c'est clair.
Alors, le chiffre de 2022, on était, alors déjà, c'est donc post-Covid, hein, c'était très long à redémarrer, hein, le marché du film a été très très long, et très très lent, on va dire, à repartir, donc on a fait 49 976 entrées en 2022, hein, qui était une année très difficile. Mm-hmm. Et 2023, ben là, évidemment, on a fait 65 166 entrées. Ce qui est très bien.
Ah, c'est là, une grosse fréquentation.
Voilà, on peut dire que la Brèche est vraiment commence à prendre son un beau rythme. Mm-hmm. Tu vois, un beau rythme de croisière, comme on dit hein, dans le jargon. Hein. Et juste pour parler un petit peu, parce qu'évidemment, il n'y a pas que la Brèche, on fait partie de plusieurs salles. Hein. Alors évidemment, il y a des salles en Gironde essentiellement. On a des salles en Charente. Et maintenant, on commence à avoir des salles dans le sud de la France. C'est-à-dire que Artec va dire grossit le nombre de ses salles. Et donc, il y a les salles de Saint-Médard-en-Jalles, mm-hmm. Soulac, Gujan-Mestras, Eysines, Lacanau, Montendre qui est en Charente, Carbon-Blanc, Pompignac qui est du côté des Landes, il me semble, Marche-Prime, pareil aussi, on est au niveau des Landes, Chantonnay, ça c'est la Charente, c'est pas la Charente, c'est la Vendée, c'est vers là-bas. Et on a aussi les derniers arrivants, c'est Marignane. Marignane, là, ouais, tu vois, on est vraiment dans le sud-est. on est à côté de Marseille.
Oui, exact. Ouais.
Parce que Marignane, évidemment, c'est là où il y a le grand aéroport
bah oui.
Qui dessert Marseille. Donc voilà, ça regroupe tout ça, Artec. Hein, c'est pour donner un ordre d'idée un petit peu de toutes ces salles-là. Et donc, j'ai récupéré le chiffre, évidemment, global. Parce qu'évidemment, quand Artec va démarcher, on va dire, les distributeurs pour avoir des copies de films, pour avoir des sorties nationales.
Ah oui, ça pèse un petit peu plus.
Mais ouais. Oui, il faut savoir combien on pèse déjà.
Ouais.
Parce qu'une petite salle qui fait 65 000 entrées, je veux dire, elle est insignifiante auprès des distributeurs. Ils te calculent pas. Hein. Mais par contre, le groupe Artec, lui, il commence à peser. Et le chiffre de cette année d'Artec, c'est 267 509 entrées. Et là, tu peux commencer à négocier quand même.
Ouais.
Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de ce qu'est Artec et qui est amené aussi à se développer dans tous les cas. Parce qu'il y a du personnel qui est délégué pour la recherche de DSP. Donc, les délégations des services publics, c'est-à-dire de reprendre des salles et les exploiter. Donc voilà, donc ça c'est en plein développement et c'est chouette.
C'est une bonne nouvelle en tout cas, et c'est surtout encourageant de voir que le cinéma finalement n'a pas été oublié, n'a pas été boudé.
Non, du tout, non.
Et on retrouve cette ambiance que peut-être que les gens ont essayé de retrouver, aller au cinéma, aller dans les salles, c'est aussi une ambiance particulière.
Il y a ça, mais il y a aussi des films qui ont marché. Alors, il y a des
bonnes productions.
Ouais. Tout le monde attendait, on va dire, les Walt Disney, évidemment, ils ont fonctionné, les Walt Disney, pas forcément à la hauteur de ce que j'espérais, hein, mais ils ont quand même bien fonctionné. Il y a eu des surprises aussi. Alors le Wonka, avec Timothy Chalamet, lui, a très très bien marché. Il y a d'autres films qui ont marché. Il y a de la surprise de cet hiver. Et je suis content qu'il y ait des surprises de temps en temps, hein, quand même. Des films qui n'étaient pas super attendus. Et des films qui ont mis du temps aussi à démarrer. Et donc, le film que tu as pu voir.
Oui, Chasse gardée.
Chasse gardée, voilà. Donc Chasse gardée, lui, par contre, de Frédéric Forestier, a super bien marché. Et ouais. Ça, c'était la surprise. Parce que la première semaine, par contre, bah, c'était plutôt calme.
Ouais.
Et ça s'est déchaîné après. Mais ça s'est vraiment déchaîné à la seconde semaine. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec des halls pleins de gens. Tu as pu le tester.
Ouais, c'est vrai.
Et ça a été ça à toutes les séances.
Oui, parce qu'on a, on avait des films, on attendait au coin du bois, et finalement, ça n'a pas été aussi explosif que ça. Je non. pense à Indiana Jones, par exemple, aux Missions Impossibles.
Par cela, oui.
On a eu une fréquentation, mais peut-être en dessous de ce qu'on pensait.
Oh, bah déjà, en dessous de ce qu'espéraient les distributeurs, comme Shazam, par exemple, qui s'est complètement ramassé. Ils avaient annoncé ça comme un gros film. Oui, effectivement, Indiana Jones aussi, annoncé comme un gros film qui a pas fonctionné du tout, les gens n'en ont pas voulu.
Mais donc, si on reste sur le Made in France, effectivement les productions françaises ont tiré leur chapeau.
Hein. Oui, mais c'est carrément cocorico cette année. Parce que, mais ça c'est très bien, hein, justement, moi je l'ai toujours dit, hein, les comédies françaises marchent super bien, les gens sont en attente de comédies françaises. Alors évidemment, elles ne fonctionnent pas toutes, mais de temps en temps, on a des films qui explosent au niveau fréquentation, et là, justement, on les attendait pas du tout. Et Chasse gardée, au plus fort, on va dire, de l'hiver, des vacances, hein, c'est plus de 500 entrées dans la semaine. Tu vois, ça pèse quand même. Et je trouve ça super chouette. Vraiment, c'était vraiment, vraiment très très bien. Et d'ailleurs, Chasse gardée fonctionne toujours bien.
Toujours bien, d'accord.
Oui. Quand j'ai vu les chiffres de la première semaine, je dis voilà, il aura une carrière relativement correcte, et voire un peu longue, on va dire. Hein. Donc on a passé un super hiver, il y a eu beaucoup de travail, mais des résultats à la clé, et c'est très très bien.
Voilà, donc on repart sur de bonnes bases cette année 2024.
Oui, on croise les doigts.
Avec beaucoup de surprises aussi qui nous attendent durant cette saison cinéma, et avec des films aussi qui arrivent très prochainement sur les écrans. Alors cette semaine, nous avons quelques rendez-vous. Tu vas nous en parler, Pascal, avec un sommaire d'émission. Tu disais donc, Maxime Gasteuil qui sera dans les murs de la Brèche ce samedi à Sainte-Foy-la-Grande.
Voilà, donc j'ai fait une sélection de 5 films.
Ouais.
14 jours pour aller mieux, donc qui est le film de Édouard Pluvieux, donc avec Maxime Gasteuil, entre autres. Hein. Il y a une super distribution, on va revenir là-dessus. Hein. On va parler aussi du film de Sofia Coppola, Priscilla. On va parler aussi de 5 hectares, le film avec Lambert Wilson, qui a été tourné en partie en Dordogne.
Oui, il y avait beaucoup de films qui ont été tournés en Dordogne. J'ai vu un petit article dans la presse sur ces films qui ont été réalisés, notamment en Périgord. Voilà. Et ça fait plaisir aussi. Hein. Souvent des films historiques des films qui s'y prêtent, hein, pour notre région.
On va parler aussi d'une affaire d'honneur. On va plonger dans le monde des duels.
Alors c'est important, à l'époque on se battait, on réglait les comptes.
Mais j'étais quand même étonné de savoir qu'on se fritait autant au 19e siècle aussi.
D'accord.
Et oui, parce que c'était quand même, on va dire, quelque chose de médiéval pour moi, tu vois, ça s'arrêtait, on va dire, à l'époque des mousquetaires, là où Richelieu justement avait interdit les duels sous peine de mort.
On le voit dans le film des trois mousquetaires, à un moment donné. Ils veulent se régler les comptes.
Absolument, Et on va parler aussi d'un silence, ainsi que du festival Télérama aussi, qui arrive aussi, qu'on fait chaque année. Mm-hmm. Et comme personnage de la semaine, donc dans le cadre de la sortie, donc une affaire d'honneur, j'ai choisi une actrice, qui est une très bonne actrice, qui est en train de monter, qui a vraiment fait ses preuves lors de ses premiers films, qui est un personnage qui sort de la télé, qui faisait la météo à Canal+. Tu te souviens de cette fille-là?
Alors j'en ai connu pas mal, à Canal+, qui faisait la météo.
Je pense que c'était une des plus emblématiques, parce qu'elle est restée quand même un certain temps.
D'accord, bah écoute, je vais creuser. Alors,
quand je dis une grande actrice, c'est vraiment par la taille, hein, parce que sa carrière n'est pas très longue, mais j'ai envie d'en parler un petit peu.
D'accord.
Voilà, j'ai nommé Doria Tillier.
Alors je vais regarder.
Mais oui, mais tu vas voir quand même, en plus c'est une belle femme. Hein.
Très bien. Donc on va commencer par nos visiteurs de ce week-end à Sainte-Foy-la-Grande à la Brèche pour l'événement. Tu le disais, c'est un film qui va sortir sur les écrans au mois de mars, et ça sera une avant-première. Hein.
Oui, le 6 mars. 14 jours pour aller mieux. On va parler de thérapie, de groupe, ça parle de ça en fait. C'est un film français, c'est une comédie d'Édouard Pluvieux. Alors au niveau des acteurs, on va retrouver évidemment Maxime Gasteuil, Romain Lanéry, Zabou Breitman, Lionel Abelansky, Chantal Lobby, Michel Boujna, Bernard Farcy. Alors Bernard Farcy, c'était l'inspecteur dans Taxi.
Non, je regardais la météo.
Ainsi que Anne Serra. Alors Maxime, cadre ambitieux et cartésien, ne pense qu'à sa carrière et à son futur mariage avec Nadège, la fille de son patron. Au bord du burn-out, seul à ne pas s'en rendre compte, il se retrouve embarqué par son futur beau-père Romain au beau milieu de son pire cauchemar. un stage de bien-être encadré par Clara et Luc, un couple de clairvoyants, avec des stagiaires plus lunaires les uns que les autres. 14 jours pour aller mieux, au cours desquels ces principes et préjugés vont être soumis au régime zénitude et bienveillance. Donc voilà un petit peu pour vous éclairer. Alors évidemment, il n'y a pas de papiers qui sont sortis sur les circonstances du tournage, tout ça. Donc, mais je vous invite quand même à aller voir la bande-annonce qui est vraiment chouette.
Très bien. Ce sera l'occasion donc de découvrir tout cela ici à La Brèche, en tout cas. Et on aura aussi l'occasion, peut-être, hein, on va voir, on va essayer d'arranger une petite interview avec Maxime Gaston,
ouais,
qui est disponible.
Ouais, voilà. On va essayer de se glisser. Ouais, bien sûr.
Voilà, mais on invite évidemment tous ceux qui nous écoutent sur la radio de venir samedi, justement, à cette rencontre.
Oui, les gens peuvent aussi réserver par internet. C'est en train de pleuvoir les réservations là.
Ah oui.
Oui, on a dépassé les 170 là, donc la salle commence à bien se remplir. Hein. Si les gens veulent venir, essayez de les prendre sur internet, ou alors de venir en journée. Des gens qui passent les chercher. Hein. Voilà, donc Maxime Gasteuil, voilà, ça sera samedi à 14h. Hein.
T'es noté.
Samedi à 14h30 à La Brèche.
Oui, 14h30, il faut venir un petit peu avant.
Il faut venir à l'avance, évidemment, oui. Donc à 14h30, il y aura là quand même la présentation du film. Voilà, on va parler un petit peu avec Maxime Gasteuil et le réalisateur, et ainsi qu'il y aura aussi des membres de la distribution, hein, donc de Wild Bunch Distribution. Hein.
C'est noté, Pascal. On enchaîne avec notre rendez-vous cette semaine, Priscilla. C'est un biopic.
Absolument. On va parler de l'ancienne petite amie de Elvis Presley, qui était très jeune d'ailleurs quand elle a rencontré Elvis.
Très intéressant.
Elle avait 14 ans.
Ah oui, d'accord.
Elle avait 25.
Ouais.
Ouais, ils se sont rencontrés en Allemagne parce qu'évidemment, beaucoup d'Américains allaient faire leur service en Allemagne.
Et oui.
D'ailleurs, beaucoup de Français aussi. Je pense à Johnny Hallyday, entre parenthèses.
Oui.
Lui aussi.
Je me rappelle à l'époque, ces jeunes crooners des années 60, oui. 50-60, ils avaient toujours l'habit militaire sur les photos avec une guitare.
Oui, voilà. Donc, c'est vrai que dans les années 60, franchement, c'était direction l'Allemagne. Ouais. Mon père avait son service là-bas. Il y en a pas mal aussi. Donc, Priscilla. Un film américano-italien d'1h53, c'est un biopic, un drame. Hein. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ce film a reçu un prix à la Coupe Volpi pour la meilleure interprétation féminine pour Kylie Spini. Alors, je ne sais pas comment on le prononce, hein. S-P-A-E-N-Y. Hein. Spini, je ne sais pas trop. Donc, un film de Sofia Coppola, évidemment, que je ne présente plus, on en a parlé,
ouais,
ça me semble.
Hein.
Mm-hmm. Au niveau des acteurs, on va retrouver donc, Kylie Spini, Jacob Elordi, Dagmara Domingzik, Harry Cohen, Tim Post, Lynn Griffin, Dan Bern, Rodrigo Fernandez, Stoll. Donc quand Priscilla rencontre Elvis, elle est collégienne. Lui a 24 ans et est déjà une star mondiale. De leur idylle secrète à leur mariage iconique, Sofia Coppola dresse le portrait de Priscilla, une adolescente effacée qui lentement se réveillera de son conte de fées pour prendre sa vie en main.
Alors juste par parenthèse,
oui.
Mon cher Pascal, je tiens à préciser que Elvis Presley avait une fille.
Oui, c'est Cheyenne.
Qui s'appelait Priscilla aussi.
Ah, ça s'appelait Priscilla, d'accord. Ouais, il n'y a pas une fille qui s'appelait Cheyenne.
Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pour ça que ça me fait vraiment réagir par rapport...
Ah, d'accord. Ah, je ne savais pas.
Alors, c'est peut-être en hommage...
Mais sûrement.
Elle s'appelait Priscilla.
Elle
nous a quittés malheureusement il n'y a pas si longtemps que ça, décédée, qui n'était pas très âgée, hein, d'avoir peut-être une quarantaine d'années, voire 50 ans.
Oui, c'est pas très vieux.
C'est pas très vieux.
Voilà. Donc, comme nous dit Sofia Coppola, donc, j'ai été très ému par les souvenirs de Priscilla et j'ai voulu comprendre ce que cela a représenté pour elle d'entrer dans le monde d'Elvis, puis plus tard de le quitter pour trouver sa propre identité. Ce film s'intéresse à la manière dont Priscilla devient elle-même et à ce qu'être une femme signifie pour elle et pour les générations après elle. Son passage à l'âge adulte s'accomplit dans un environnement totalement hors norme et son histoire est unique, mais je crois qu'il est facile de s'y reconnaître. Donc le film suit Priscilla Presley de ses 14 ans, où elle était une adolescente vivant sur une base militaire de l'Air Force en Allemagne, à ses 24 ans, où elle quitte l'univers de Graceland. Si elle était la compagne d'une rockstar, on ne savait pourtant pas grand-chose d'elle. En retraçant son parcours, c'est un récit alternatif à celui d'Elvis Presley que livre Sofia Coppola. Et la réalisatrice raconte « Traditionnellement, Priscilla est un personnage mineur dans l'histoire d'Elvis, mais elle a assisté à tout. Et son point de vue est aussi différent que fascinant. Ce qui m'intéressait, c'était d'explorer l'effet que cela faisait d'être une adolescente à Graceland, de grandir au sein de cette atmosphère extrêmement intense dans un mariage compliqué et à quel point c'était incroyablement audacieux de choisir de quitter ce monde pour prendre sa vie en main. Donc Priscilla n'est pas un biopic rigoureux de la vie de Priscilla Presley. Sofia Coppola a cherché à recréer quelque chose de viscéral et d'intériorisé. Et comme elle nous dit, ce que j'ai toujours le plus aimé dans les films, c'est le sentiment que l'on a quand on est totalement immergé dans l'univers de quelqu'un et que l'on voit des choses qui font écho à des éléments de notre propre univers, mais aussi des choses qui nous surprennent et qui nous dérangent. C'est le genre de film que j'ai tendance à faire. Donc je voulais que le public se sente complètement immergé dans la peau de Priscilla. Alors Priscilla partage plusieurs points communs. Alors c'est un écho, comme elle nous dit, à Marie-Antoinette, bon, qui était très, très spéciale.
Oui,
j'ai pas trop aimé, assez fantaisiste d'ailleurs. Ouais. Donc Priscilla partage plusieurs points communs avec Marie-Antoinette que Sofia Coppola a réalisé en 2006. Les deux films ne recherchent pas l'exactitude historique et mettent en scène une jeune fille naïve propulsée dans une vie opulente sous les feux des projecteurs. J'ai été frappé de voir à quel point on pouvait s'identifier à elle, bien qu'elle évolue dans un environnement peu commun, souligne la réalisatrice. Et elle ajoute, Priscilla était considérée dans l'univers des tabloïds comme la femme enfant d'Elvis. Mais j'avais le sentiment qu'il y avait une histoire bien plus intéressante à raconter. Le rêve d'une gamine qui devient une réalité et qui n'est pas ce qu'elle imaginait. Le fait de devenir adulte en expérimentant à la fois une immense célébrité et une profonde solitude. La façon dont certains vivent dans des bulles, mais éprouvent parfois le besoin de les faire éclater. Et enfin, le courage qu'il lui a fallu pour comprendre que malgré la force de son amour pour Elvis, elle devait le quitter. Donc là, pour écrire le scénario, Sofia Coppola s'est appuyée principalement sur les mémoires de Priscilla Presley, Elvis et moi, écrits en 85. Donc elle a laissé quand même des traces écrites, Priscilla. J'y ai vu une sorte d'Alice au Pays des Merveilles. C'est le voyage d'une jeune fille dans un monde inimaginable qui éblouit et la manière dont elle en sort en voyant les choses avec énormément de clarté. La réalisatrice a eu de longues conversations très personnelles avec Priscilla grâce auxquelles elle a pu approfondir son point de vue. Je voulais entendre vraiment de sa bouche ce qu'avait été son expérience afin de refléter avec honnêteté. À mes yeux, c'est un cas extrême qui montre bien ce que c'était d'être une femme à cette époque. Alors évidemment, il fallait trouver l'actrice, ce qui est vraiment compliqué. Hein.
Ben oui, c'est
donc,
ça.
Jouée donc par Kylie Spinney. Donc avant Kylie Spinney, plusieurs actrices se sont glissées dans la peau de Priscilla Presley, qui est d'ailleurs elle-même comédienne, apparaissant dans des séries comme Dallas.
Ah bon ?
Dallas ! Ou ben Spin oui. City ! Et les films comme la saga Y a-t-il un flic pour sauver, tu vois, ainsi de suite. Quoi.
Oui.
Donc, vu dans Sale Times à l'hôtel de El Royal, The Craft, Les Nouvelles Sorcières et Mare of History, elle a quand même une grosse carrière, on va dire, d'actrice. Hein. Kelly Spinney interprète le rôle de Priscilla. Sofia Coppola revient sur ce choix. Kelly a un visage très expressif et une capacité extraordinaire à se transformer selon les différentes étapes de la vie qu'elle doit incarner. Elle était incapable d'incarner une jeune fille de 15 ans le matin et dans la même journée jouer une fille de 20 ans enceinte à Graceland. Kelly a une capacité à vous faire partager ses émotions qui est à la fois très belle et un peu mystérieuse. Donc voilà un petit peu pour vous éclairer un petit peu sur ce biopic enfin, qui est quand même relativement librement interprété. Donc au niveau du King, donc Sofia Coppola voulait s'éloigner des innombrables Elvis que l'on a vus au cinéma.
Ben oui, c'est vrai.
Ouais. Et donc comme elle nous dit, l'image que l'on représente de lui est bâtie entièrement à partir de la manière dont elle parle de lui. C'est la facette privée d'Elvis. C'est lui quand il n'est pas sur scène. Un Elvis qu'elle seule connaît. Donc le rôle concerne surtout la façon dont il se comportait chez lui, seul avec elle, ses vulnérabilités, ses doutes et les failles qu'elle décelait chez lui. C'est l'Australien Jacob Elordi, révélé pour la trilogie The Kissing Booth et Euphoria, qui incarne Elvis Presley. Jacob a naturellement beaucoup de charisme, mais il a vraiment essayé d'incarner le côté émotionnel d'Elvis. À partir des descriptions de Priscilla, il a imaginé Elvis comme quelqu'un qui cherche toujours quelque chose d'évanescent et qui est facilement frustré, raconte la réalisatrice. Alors, on va parler quand même vite fait de Graceland. Évidemment, c'était l'endroit où vivait Elvis.
Hein. Oui. Mm-hmm.
Donc, en 1957, Elvis Presley a fait l'acquisition pour 100 000 $ de la maison de ses rêves, un manoir de 8 chambres bâti dans un style néocolonial en 1939. C'est pas très grand. Moi, je m'attendais à
un grand château.
Tu sais, 8 chambres, ça va.
Pour faire le ménage, hein, ça suffit.
Donc, Graceland, oui, absolument. Ouais. Graceland est devenu un monument illustre de l'histoire américaine, visité chaque année par 500 000 de personnes.
Ah oui, d'accord.
Sofia Coppola voulait montrer un Graceland inconnu des visiteurs, la demeure que Priscilla découvre éblouie en 1963. La chef décoratrice Tamara Deverell confie que Sophia voulait une approche très impressionniste. Il fallait reconstituer le décor authentique de Drakesland, mais en le rendant plus séduisant, comme s'il surgissait de souvenirs lointains et mélancoliques. La palette de couleurs est très douce, très sucrée, un monde de rose pastel, de bleu enfantin, d'or brillant et de crème. Elvis a fait complètement rénover Graceland au milieu des années 70 après le départ de Priscilla. Le manoir actuel est donc très différent de celui montré dans le film. Voilà, comme ça vous pourrez découvrir un petit peu.
C'est très intéressant.
Voilà, la maison d'Elvis.
Voilà, on va faire un petit détour sur la bande-annonce et on se retrouve juste après, Pascal.
Je m'appelle Terry West, et vous ?
Priscilla Beaulieu.
Vous aimez Elvis Presley ?
Bien sûr, comme tout le monde.
Alors qu'est-ce qu'ils écoutent les jeunes ces temps-ci ?
Bobby Darin et Fabianne. Et vous ?
Quelles sont exactement vos intentions, Monsieur Presley ? Vous avez un tas de femmes qui se jettent littéralement à votre cou. Pourquoi, ma fille ?
Monsieur, j'ai beaucoup de sympathie pour votre fille. Elle est très mûre pour une fille de son âge.
21 ?
Désolé, mon cœur, c'est 22. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour elle. Des cheveux noirs et plus de mascara.
Je sais pas trop si j'aime.
Comment ça, tu sais pas trop si t'aimes ?
Il n'est pas comme tu l'imagines. Tu sais, il y a plein de rumeurs qui circulent sur vous deux. Est-ce que t'as quelque chose à cacher ?
Absolument rien à cacher, merde !
Il me faut une femme capable de comprendre que ce genre de choses peut arriver. Tu veux être cette femme ou pas ?
Je te quitte pour avoir une vie à moi.
Voilà, Priscilla à l'instant sur Radio Grand-Terre et dans l'émission Tract. Donc c'était la BO du film Priscilla, tout simplement. Le biopic, la compagne d'Elvis Presley, le King, une autre facette hein, de l'artiste et ce monde de gloire entre drogue, alcool,
ouais, milieu
sucrerie.
Un milieu très très mouvementé.
Voilà, donc ce sera intéressant de voir un petit peu l'arrière.
Voilà, ça sera à découvrir la brèche en VO et en VF.
Très bien, très bien. Alors on va aller dans le monde rural, cette fois-ci un Parisien qui va à la campagne.
Oui. Alors on parlait de néo-ruraux avec Chasse Gardée.
Oui, c'est vrai. Ouais.
En voilà un second.
Exactement.
Lambert Wilson.
Oui, c'est très très bien.
Qui s'installe à la campagne. Donc 5 hectares. Donc un film d'Émilie Deleuze, une comédie française d'une heure 34. Au niveau des acteurs, on va retrouver Lambert Wilson, Marina Hens, Laurent Poitronneau, Lionel Drey, Annelise Einberger, Arthur Dupont, Anouk Ferral et Maya Sambar. Qu'est-ce qui conduit un homme établi à mettre en péril son confort, sa carrière et son couple ? La passion d'autant plus brûlante qu'elle est tardive, pour 5 hectares de terre limousine. Mais la terre se mérite, surtout quand on vient de la ville. Voilà Franck précipité dans la quête du Graal. Il lui faut un tracteur.
Oui,
c'est vrai, c'était la préoccupation du film. Mais c'est vrai, en plus. Alors là, c'est la naissance du projet, évidemment. Donc, Émilie Deleuze a eu l'idée du film après un moment qu'elle a vécu avec la scénariste Marie de Plechin. Un ami de cette dernière a eu ce rapport à la terre après avoir acheté une maison à la campagne. Et la réalisatrice confie, 5 hectares c'est peu. Aujourd'hui en moyenne, un paysan éleveur d'animaux ne peut pas vivre décemment en dessous de 200 hectares, ce qui est vrai. S'occuper de ces 5 hectares est devenu une nécessité pour cet ami. Un peu comme Franck, le personnage, il n'en donnait pas les raisons parce que c'était pour lui une évidence. C'était quand même un peu loufoque, hein, le scénario, moi j'aime bien. L'idée d'acheter un tracteur lui est venue ensuite pour devenir légitime aux yeux du voisinage paysan. Nous, on se dit que ce n'est pas un tracteur qui va suffire à le rendre crédible comme paysan. Surtout qu'il ne s'occupe pas de la terre et ne s'en occupera pas. Cultiver un terrain, c'est une compétence. On ne devient pas paysan du jour au lendemain. Marie, moi, son entourage, on est rentrés dans son rêve qui est devenu rapidement notre cauchemar. Vivant la moitié du temps à la campagne, j'ai embarqué des amis dans cette recherche qui nous a pris plus de 6 mois. Je n'imaginais pas à l'époque qu'un tracteur de ce type était un objet si précieux. Tout a pris une proportion folle. La détermination de cet homme, de ce Franck réel, celle du type qui vend son tracteur puis se rétracte. Tout cela qui, dans le film, a existé.
D'accord.
Voilà quelque chose d'intéressant quand même.
Oui, absolument.
C'est,
ouais.
Mais oui, c'est une petite plongée, on va dire, dans le monde paysan. Et oui, ouais. Mais là, on découvre vraiment peut-être un autre monde. Et il craque à la fin, en fait. Donc, avec 5 hectares, Émilie Deleuze a eu envie de montrer des personnages dits de la campagne, sans les réduire à une fonction permanente, comme on le voit souvent, où les paysans ont des problèmes de paysans, et en face, les parisiens ont des problèmes de parisiens. Et la réalisatrice précise. Je voulais montrer les folies humaines, non réductibles aux clichés. Dès qu'on ouvre la porte d'une maison, il y a une folie quelque part. C'est donc la demeure de cet ami. À partir d'une situation anodine qui nous a décidé, Marie et moi, il y avait une ampleur qui dépassait la simple historiette personnelle. Donc le traiteur dans le film date des années 70. Oui, exact, c'est un David Brown, je l'ai vu d'ailleurs. Ouais, hein. Oui, je l'ai conduit, et c'est les tracteurs blancs. Émilie Deleuze explique que sa fascination pour les machines était déjà présente dans Peau Neuve, qu'elle a réalisé en 99. Les hommes aux prises avec les machines me fascinent. Une machine est à la fois un jouet et une puissance. Ses caractéristiques ramènent à l'enfance et à la puissance pure. Je sais que quand je monte sur un tracteur, j'éprouve un sentiment de toute puissance. Il me semble que Franck prend conscience de cette puissance en maniant l'engin. C'est là qu'il se rend compte qu'il devient autre. Et c'est vrai que tu le vois dans le film, annonce, il est fier comme Artaban. Alors, juste pour la petite histoire quand même, j'ai regardé le film annonce et vraiment j'ai fait un arrêt sur image sur le film annonce.
Ouais.
Parce qu'avant, il passe sur un pont. Il passe sur un pont et il y a des panneaux. Donc avec le mouvement de la caméra, tu n'arrives pas à lire.
Ah oui.
Donc j'ai fait un arrêt sur image. Je me dis, mais c'est quoi le nom du bled sur ce pont-là? Alors, il parle de Terre Limousine. Non, moi j'ai vu Kreis.
Ah bon?
J'ai vu Kreis sur le pont, le panneau du pont.
D'accord.
Donc je pense qu'il enjambe la Dordogne. Mmh. Donc ce n'est pas forcément une Terre Limousine pour moi. Mais bon, peu importe. Hein, ce qui est intéressant, c'est le scénario. Donc 5 hectares nous apprend un point de droit étonnant à la campagne. Quand on travaille un terrain, on en devient propriétaire par l'usage. Il s'agit d'une loi qui remonte au droit romain. Et Émilie Deleuze explique. Les négociations pour l'achat du tracteur donnent lieu à des scènes à la fois comiques et tragiques. C'est ce que je disais à propos du rêve de l'un, cauchemar pour l'autre. Il y a d'un côté Franck, amoureux du tracteur et d'une certaine façon du vendeur. Et Paul, le vendeur, enfermé dans son impossibilité de faire quoi que ce soit. Là encore, on s'est inspiré d'une personne existante. Il a construit de ses mains un endroit magique pour ne pas avoir à faire. Je ne connaissais pas ce genre de névrose, s'agiter pour avoir la paix et ne rien faire. Son lieu, un club de chevaux pour touristes, n'est jamais fini, donc pas de clients. Et on lui fout la paix. C'est un désert magnifique, quand même amusé de lui-même. C'est un personnage digne des grandes tragédies. Les deux femmes sont exclues. Elles assistent impuissantes à deux folies qui se rencontrent. C'est tragique et drôle. Voilà un scénario assez loufoque. Et qui, à mon avis, qui doit être superbement joué par Lambert Wilson.
Ah oui, j'adore l'acteur. En plus, on l'a vu dans Plan de chat, dans Barbecue. Il y a eu d'autres films où il a vraiment eu un rôle, ce côté un petit peu bobo. Il se retrouve.
Ce côté précieux.
Ouais, précieux.
Un peu précieux,
ouais,
tu vois. Ouais, très,
exactement.
Très. Et qui va sortir un petit peu aux paysans du coin.
Eh bien, on va écouter justement un extrait de la bande-annonce et on se retrouve juste après. Voici 5 hectares.
Ah ! Vous croyez que je vais vous tuer ?
Non, non. Pas pour 5 hectares de pissenlit. Pour lui, je suis un charlot.
Parce que t'es pas un charlot, peut-être ?
Mais justement, le seul moyen d'être crédible à ses yeux, c'est d'avoir un tracteur. Un tracteur, c'est un statut. Voilà.
Je suis à Moussac, c'est une centaine de kilomètres, un peu plus.
C'est un tracteur que je vous vends là, hein. C'est pas une berline.
Il y a un moteur, non ?
Mais vous savez conduire ?
Vous vous installez ?
Oui, enfin, c'est 5 hectares.
Bon, 5 hectares, c'est peu, mais c'est déjà trop tard pour faire demi-tour. Vous vous voyez dans la ferme des 10 000 cochons, là ?
Vous êtes quoi ? Non, attendez, me dites pas. Parisien.
Des gars qui viennent jouer les paysans, là, pendant les vacances. C'est pas Center Park, ici, d'accord ?
Les cheveux ! Les cheveux !
C'est Léo, la femme de Franck. Est-ce que tu sais où il est ?
Pourquoi est-ce qu'il nous fait ça ?
Mais pourquoi ? Moi, je m'en fous ! Il est où, là ? Là, maintenant ? Qu'est-ce que vous fuyez, exactement ?
J'ai un tracteur, je roule avec, c'est pas illégal.
Quand même, c'est grand, hein, 5 hectares.
Voilà, c'est vrai que c'est grand, 5 hectares, mais peut-être pas suffisant pour... pour faire de la culture.
Pour en vivre, non, mais c'est juste pour la poésie de l'espace, surtout pour être tranquille aussi, parce que mine de rien, il délaisse un petit peu sa femme, et il va s'isoler un petit peu dans cette espèce de cocon de verdure, et puis se heurter aussi aux populations locales qui le voient arriver comme une espèce d'extraterrestre avec son tracteur, parce qu'en fait, tout ce qu'il a envie, en fait, c'est rouler en tracteur, et puis de respirer la nature. Mais je trouve le scénario vraiment, vraiment sympathique, quoi.
À voir absolument, avec Lambert Wilson notamment, dans 5 hectares. Alors on va changer de registre, on va revenir un petit peu en arrière, on va faire un petit peu d'histoire sur la radio, on va revenir au temps... Autant des affrontements, on le faisait évidemment sur un terrain, un face-à-face, un duel.
Voilà, absolument. Et des puis en duels. Plus, il y a plusieurs sortes de duels. Hein. Moi, j'ai pas fait de papier historique là-dessus.
C'est quoi, sabre, à l'épée
Mais c'était, oui, t'as le sabre, l'épée, mais t'as aussi le duel à cheval. Hein.
Ah ouais.
Ça rigole pas. Hein. Donc au sabre, à cheval, ou alors au pistolet.
Ah oui, non. Oui,
voilà.
C'est vrai.
Faut pas éborgner sa monture quand même, faut faire gaffe. Et voilà, c'était quand même surtout réservé aux aristocrates, aux militaires surtout, ouais. Les militaires. On va parler d'une affaire d'honneur. Le dernier film de Vincent Pérez. Alors Vincent Pérez, il a réalisé plusieurs films, mine de rien. C'est son 4e film, Vincent Pérez. En 2016, il a réalisé Seul dans Berlin, avec Emma Thompson et Brendan Gleeson. En 2006, il a réalisé Si j'étais toi, avec Olivia Sturlby et David Duchovny. Et en 2002, Peau d'ange, avec Guillaume Depardieu et Dominique Blanc. Donc au niveau des acteurs, on va retrouver Roche Dizem, Doria Tillier, Guillaume Gallienne, Damien Bonnard, Vincent Pérez, oui, il joue dedans, hein, mine de rien, Vincent Pérez, hein.
Mais oui.
Noam Edge, Pepe Lorente, Myriam Aclidiou. Donc nous sommes à Paris en 1887, et à cette époque, seul le duel fait foi pour défendre son honneur. Clément Lacaze, charismatique maître d'armes, se retrouve happé dans une spirale de violence destructrice. Donc il rencontre Marie-Rose Astier, féministe en avance sur son époque, et décide de lui enseigner l'art complexe du duel. Ils vont faire face aux provocations et s'allier pour défendre leur honneur respectif. Alors, en tout cas, je ne savais pas que c'était codé. On ne fait pas n'importe quoi. Lors du duel, c'est vraiment codé. Hein. Il y a un livre.
Déjà, t'as pas le droit de tricher. Enfin, il y aura une position.
Oui, surtout qu'il y a des juges, il y a des témoins.
Ah oui,
ça rigole pas. Ouais. Donc, si tu sors du code, c'est annulé.
En fait, c'est le premier qui touche l'autre ou il faut aller jusqu'au.
Ah ben, ça dépend.
Jusqu'à la mort.
Bah, tu peux. Je pense que le duel, tu peux aller au premier sang quand tu as une lame.
Ah oui.
Quand t'as un flingue, ça va être difficile. Donc, ça dépend des conventions, de ce qui est proposé au début, ce qui est mis en accord avec les deux combattants, on va dire. Et c'est vraiment codé. Hein. Si tu sors du code et que tu flingues ton adversaire, tu vas direct en justice, par contre. Là.
Ah ouais, d'accord.
Oui, là, tu bascules dans la machine judiciaire. Donc, c'est pour ça que c'est très codé. Hein. Donc, pour éviter la triche. Donc Vincent Pérez a toujours voulu réaliser un film autour de la thématique du duel, sans jamais vraiment trouver comment et dans quelle époque. Mais lui, il voulait avant tout être prêt en tant que cinéaste, et il s'explique. « Dans ma carrière d'acteur, j'ai fait plus d'une trentaine de combats à l'épée, au sabre, effleuré, notamment dans Le Bossu, La Reine Margot. »
Très bien.
La Reine Margot, oui, effectivement. Et Fanfan la Tulipe. J'ai travaillé avec des cascadeurs chinois, russes, américains. Parmi eux, de très grands maîtres d'armes, dont William Hobbs, qui a signé parmi les plus beaux duels du cinéma, dont ceux des duellistes de Ridley Scott, dont j'ai parlé maintes fois, que je vous recommande chaudement, jusqu'au fameux Game of Thrones.
Ah oui.
Eh oui. Sur le tournage de J'accuse, dans une discussion, Jean Dujardin m'a dit que je devrais faire un film sur le sujet du combat. Il a alors réouvert cette boîte de Pandore que j'avais fermée. Je me suis rendu compte que le désir de réaliser un film sur le sujet était resté intact. Mais cette fois-ci, je me sentais prêt. Je me suis immédiatement mis à effectuer des recherches. Donc, Vincent Pérez a alors découvert sur Internet l'annuaire du duel 1880-1889, un document qui recense les plus grands duels de ces 9 années, à un moment où ils ont connu en France un véritable boom. Un autre ouvrage a été très important pour le film, L'art du duel, écrit en 1886. C'était la bible de tous les duellistes de l'Hexagone. Tu vois, c'était ça dont je parlais, le code. Écrit par Adolphe Eugène Tavernier, qui possédait une salle d'armes et qui était à la fois collectionneur, auteur et journaliste et escrimeur. Le livre est une mine d'informations sur le duel, sa technique, ses armes, ses règles, sa noblesse et son protocole. À l'époque, l'art du duel remplaçait l'autre préférence absolue. Écrite en 1836, l'ouvrage du comte de Château-Villard, qui contient des pages passionnantes sur l'évolution des différentes techniques de combat. J'avais une telle matière pour construire une histoire, confie le cinéaste, effectivement. Donc, au gré de ses recherches, Vincent Pérez a conçu son héros, un ancien militaire taiseux, assez austère, qui incarne l'idée de la noblesse du maître d'armes et qui a une forme de pureté intangible. Il précise « J'ai imaginé que, dévasté par la débâcle de 70 et la mort de nombre de ses amis, cet homme qui aurait traversé l'horreur serait devenu à sa manière une sorte de samouraï. Le maniement des armes constituerait désormais le seul centre d'intérêt de son existence. Il consacrerait sa vie à former et entraîner des duellistes autant pour essayer de leur apprendre à vaincre et à sauver leur vie que pour leur inculquer le sens de la droiture. Je l'ai appelé Clément Lacaze en souvenir de mon premier professeur d'escrime au conservatoire et je l'ai nourri non seulement de tous les maîtres d'armes qui m'avaient marqué mais aussi des nombreux héros de cinéma qui m'avaient fasciné, ceux des sept samouraïs et des grands films de Kurosawa ainsi que les westerns de John Ford et Howard Hawks. » Là, il y a la référence. Alors pourquoi 1887 ? Alors c'est une année charnière, avec les premiers soubresauts des éclairages électriques, l'arrivée du gramophone, la motorisation des véhicules et la construction du premier étage de la tour Eiffel. Elle annonce un certain signe, dont la timide percée du féminisme, l'arrivée du XXe siècle et de son modernisme. Vincent Pérez raconte « Mais c'est une époque encore très marquée par les traditions du XIXe, notamment celle des codes sociétaux. La pratique du duel s'est encore intensifiée à partir de 1881, avec la promulgation de la loi sur la liberté de la presse. Autorisé du jour au lendemain à publier ce qu'il voulait sans risque de censure, les plumitifs de tous bords, journalistes comme écrivains, multiplièrent les provocations, suscitant une hausse sans précédent des demandes de réparation. » Et oui, ils ont dû jeter les gants, les gars. Il en résulta que les grands journaux nationaux comme le Figaro, le Gil Blas ou le Petit Journal et beaucoup d'autres se dotèrent de salles d'escrime pour former leurs journalistes aux techniques du duel. T'imagines le cirque un petit peu. Et ils accordaient une prime à leurs collaborateurs engagés dans un combat. Et oui, à condition qu'ils ne meurent pas.
Ah oui, absolument, ouais. Sinon, ça fait des ordres. Hein.
Donc, Ferdinand Massat, interprété par Diamant Bonnard, a vraiment existé. Il a vraiment rayé les femmes, les femmes et il s'est vraiment battu. Sa misogynie, comme celle de nombre de ses confrères, serait impensable aujourd'hui. Il traîna à maintes reprises dans la boue Marie-Rosée Astier de Valserre, incarnée par Doria Tilly, qui a réellement hésité elle aussi, confie Vincent Pérez.
Un très bon rendez-vous alors, en tout cas. Ouais.
Juste une anecdote quand même, sur la route de Sarlat. Je parle de duel quand même. Sur la route de Sarlat, il y a une petite bastide qui s'appelle Molière.
Ah oui,
tu connais pas la Bastide de Molière, un tout petit village, tu vois. Et donc tu en rentrant dans la bastide sur le côté, tu as l'ancien château médiéval qui est anglais, c'est une bastide anglaise. Si tu fais le tour et que tu vas du côté du vallon, il y avait jadis, je sais pas s'il y a encore, un panneau en bois sur lequel était indiqué la chose suivante. Ici a eu lieu le duel entre monsieur Tant et monsieur Untel à telle date. Alors je crois que c'était au 18e siècle. Voilà. Et donc ce petit pâte d'eau commémorait l'endroit où deux nobles se sont vraiment battus, quoi. Et je trouvais ça vraiment, vraiment émouvant parce que c'est vraiment, c'était l'endroit, il est carrément cinématographique, tu vois, ça aurait pu être filmé, ça aurait fait une grande scène de cinéma, ouais. Parce que là ils sont au milieu de ruines médiévales, tu vois, ils ont vraiment choisi leur endroit mais un petit peu, tu sais, un petit peu, on va dire isolé un petit peu du village en lui-même, quoi. Donc c'est voilà, je trouvais ça voilà pour la petite histoire. Je ne sais pas si vous allez vous balader, allez du côté du château anglais là, à côté de la Bastide qui touche d'ailleurs, et allez voir s'il y a encore ce panneau là qui m'a vraiment intrigué la première fois où je suis vraiment tombé un arrêt dessus quand même. Comme quoi, il y a encore des passionnés d'histoire de ce côté-là. Quoi. Voilà pour vous parler un petit peu des duels.
Voilà. Aujourd'hui, c'est interdit. Hein. On n'a plus le droit.
Alors aujourd'hui, c'est interdit, oui, mais alors les affaires d'honneur, mais les affaires d'honneur aussi, est-ce qu'il y en a encore aussi, tu vois, c'est ça. Peut-on se battre aussi pour l'honneur? Donc voilà, donc le dernier film donc de Vincent Pérez sera à découvrir à la Brèche cette semaine.
Voilà, je propose de faire un détour sur la bande-annonce et on se retrouve juste après.
Allez !
J'ai appris ce matin que c'était votre neveu. Je mets cette offense sur le compte de votre hystérie.
J'aurais dû arrêter le duel.
En tant que maître d'armes, t'es pas en droit de demander réparation. Il s'agit plus d'honneur, mais de vengeance. Je te suivrai pas.
Elle vient de créer la première ligue féminine d'escrime.
Vous écrivez que je suis une femme à la sensibilité déréglée. J'exige réparation.
Un homme se bat pas contre une femme.
Voilà.
Les affaires de duel ne sont pas un jeu. Êtes-vous certaine de vouloir vous battre?
J'ai vu de quoi les hommes étaient capables.
On dit que le sang lave l'honneur. Et l'amour.
Sachez que lors d'un duel, tous les coups sont permis.
Vous vous rendez compte dans quelle merde je me retrouve? Berchard est un ami, un homme de pouvoir, un héros de guerre.
Ce que je défends va bien au-delà d'un combat à l'épée.
Je sais.
Allez!
Ce qui est du colonel Berchard, il ne s'agit malheureusement plus d'honneur, mais de pulsion meurtrière.
Voilà, une affaire d'honneur, ça dégage.
Ah, ça rigole pas, t'as vu, c'est... Oui. Et un film impressionnant quand même, c'est quand même, il y a beaucoup, beaucoup de travail, on va dire, de recherche historique et tout, et puis il faut savoir une chose, c'est que les acteurs vraiment,
ont dû faire prendre des cours.
Un gros, gros travail d'entraînement d'escrime. Oui.
Eh bien voilà, c'est noté Pascal, une affaire d'honneur à voir cette semaine à la Brèche. On enchaîne avec notre rendez-vous, ça s'appelle Un silence, qu'on va pouvoir voir cette semaine également sur les écrans.
Voilà, on va parler du dernier film, un film franco-belge d'1h39, un drame de Joachim Lafosse. Donc Un silence. Donc au niveau des acteurs, on va retrouver Daniel Auteuil, Emmanuel De Vos, Jeanne Chéral, Louise Chevillotte, Nicolas Buys, Karim Barras, Larissa Faber et Baptiste Cernin. Silencieuse depuis 25 ans, Astrid, la femme d'un célèbre avocat, voit son équilibre familial s'effondrer lorsque ses enfants se mettent en quête de justice. Donc c'est un film sur la honte. Pour son 10e long métrage, Joachim Lafosse a réalisé un film sur la honte. C'est pendant le tournage, en compagnie notamment d'Emmanuel De Vos, qu'il a ressenti à quel point le film traite de cette thématique. Le metteur en scène se rappelle. Le crime provoque l'effroi. L'effroi provoque le silence qui engendre la culpabilité et la honte. On a tort de juger le silence, il faut l'interroger, c'est un symptôme. Il ne faut jamais oublier que le silence n'est pas le crime et que derrière toute personne silencieuse, il y a une épreuve, une difficulté à dire, une fragilité. Cela a été magnifique de pouvoir, avec Emmanuel De Vos et les autres acteurs, mettre en scène ce sentiment de honte. La honte n'est pas du côté de Caroline, la fille d'Astrid, qui a davantage de distance, qui supporte le crime depuis moins longtemps que sa mère et qui vit dans une époque capable d'interroger la nécessité de l'écoute et de la parole. La honte est du côté d'Astrid, qui, elle, doit se confronter à sa solitude. D'une certaine manière, Caroline incarne une messagère pour sa mère. Donc ça part d'un fait divers à l'origine. Donc Joachim Lafosse a écrit le scénario de Un silence à partir de l'affaire Issel. Dans cette dernière, Victor Issel, l'ancien avocat des familles victimes de Marc Dutroux, que je ne présenterai pas, a été condamné à 10 mois de prison pour détention d'images à caractère pédopornographique. Autre caractéristique tragique de cette affaire, le fils Issel a poignardé son père à plusieurs reprises, se faisant à son tour condamné. Le metteur en scène développe. C'est parce qu'il était question dans ce fait divers de ce que chacun d'entre nous a fait, nous fait avec la honte, la culpabilité et le silence. Quand j'ai découvert que l'avocat des parents de Julie et Mélissa, les petites filles victimes de Marc Dutroux, était condamné par la justice à son tour, que nous avons tous en Belgique découvert le geste de son fils, j'ai tout de suite eu envie de chercher à explorer la dimension tragique de ce fait divers. Comme auteur, que ce soit en écrivant, à perdre la raison ou un silence, la question qui m'occupe toujours est de savoir comment peut-on en arriver là. Comment se tisse le drame? Comment un jeune de 18 ans peut être amené à commettre l'impensable? Donc, le rôle de François a effrayé de nombreux comédiens, d'après Joachim Lafosse. Daniel Auteuil a accepté avec beaucoup de courage. Lors de notre première rencontre, il m'a dit « Je vais tenter de faire vivre le personnage avant tout jugement. Je peux le jouer parce qu'à mes yeux, la perversion est un mécanisme de défense. C'est le pire, mais c'en est un. François est un homme qui se débat pour qu'on ne sache pas. C'est un homme qui ne peut regarder la vérité sans quoi il s'effondrerait. » Donc Joachim Lafosse et le directeur de la photographie, Jean-François Hensgens, ont cherché à éviter de faire sentir la mise en scène. Et le cinéaste raconte « Il fallait que le récit avance à pas de loup, que la caméra circule mais qu'on ne sente pas ses mouvements. Donc tout est filmé en dolly, qui à mes yeux est plus discret que le steadicam, mais tape à l'œil. Et disant cela, je pense entre autres au cinéma de Claude Chabrol. Oui, effectivement, ça fait, c'est une sacrée référence. Un silence est l'un des films qui m'a demandé le plus d'exigence et de rigueur. Comme rien ne doit se voir, le moindre mouvement de trop était inacceptable, devait être gommé. Il s'agissait aussi d'éviter au maximum le champ contre champ ainsi que la plongée et la contre-plongée. Ne jamais prendre de haut, ne jamais être en surplan. Donc voilà un petit peu pour vous éclairer sur ce film, un drame, grave d'ailleurs.
Voilà, donc à voir
découvrir à la brèche.
C'est surtout un acteur qui revient sur les écrans. Daniel Auteuil, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas revu et nous sommes très très heureux en tout cas de le retrouver dans ce film.
Oui.
Avec Jeanne Chiral qui est à la fois chanteuse et comédienne.
Absolument.
Alors on va parler... d'une actrice.
Hein. D'une grande actrice par la taille. Qui va le devenir peut-être plus tard.
Mais qui est aussi animatrice. Au départ.
Qui était animatrice. Alors les gens l'ont découvert sur Canal+, elle venait présenter la météo.
Bah oui, comme toi.
Tu te souviens souvent, il y
avait. Alors j'ai regardé. Je ne la connaissais pas. Ah, désolé, j'ai pas Canal+, alors.
D'accord. Mais t'as pas vu La Belle Époque ?
Si.
De Nicolas Abbados.
Ouais.
Ben, elle joue dedans.
Ah oui, d'accord. Ouais,
non, elle joue dedans. D'ailleurs, il y a Daniel Auteuil qui joue dedans.
Ah oui, mais non, j'avais pas forcément percuté. Ouais.
Et c'est elle, la grande tige, qui est censée jouer, on va dire, son ex-petite amie à Daniel Auteuil dans les années 60. Mm-hmm. Tu fais une espèce de. Ils vendent du rêve, en fait, dans La Belle Époque. Mm-hmm. Et c'est un film que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, hein, que j'adorais, pourtant, par contre. C'est vraiment très, très bien fait. Et là, vraiment, on découvre Doria Tillet dans un de ses premiers rôles. Elle joue très, très bien. C'est bluffant. Hein. Mm-hmm. Et après, j'ai creusé un petit peu le personnage. Je suis allé voir, parce que je ne l'avais pas vu non plus, toujours le film de Nicolas Bedos, c'est Monsieur et Madame Adelman.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Voilà, ce couple d'écrivains à travers l'histoire de leur vie. Et pareil, là, tu vois, elle a une belle assise hein, quand même, au niveau de son jeu. Et c'est vraiment. Pour moi, c'était une très bonne actrice. Elle a vraiment beaucoup, beaucoup de présence. Hein, et je pense qu'elle va vers une très bonne carrière. Doria Tillier. Oh, je n'ai pas ses mensurations, mais je pense qu'elle elle doit frôler les 2 mètres.
Ah oui.
Ben, elle est super grande, elle doit faire 190. Hein. Mm-hmm. Née le 27 mars 1986 à Paris. Elle a 37 ans. Doria Tillier, c'est 8 années de carrière, 15 films tournés, un prix et 4 nominations. Dont le prix, en 2017, elle a reçu le Swan d'or de la révélation féminine pour Monsieur et Madame Adelman, dont j'ai parlé tout à l'heure, au Festival du film de Cabourg. Et en 2016, donc, elle sera co-réalisatrice hein, aussi hein, de Monsieur et Madame Adelman. Donc elle va travailler également sur le film. Donc au niveau de sa filmographie. Alors on la voit, en 2015, elle apparaît dans une série, hein, Les filles d'aujourd'hui. Que je ne connais, que j'ai pas vu d'ailleurs, je ne connais pas trop. En 2016, on la voit dans Monsieur et Madame Adelman, de Doria Tillier et Nicolas Bedos. En 2017, elle joue dans Le Feu, de Fred Cavaillé avec Bérénice Bejo et Suzanne Clément. En 2019, elle joue dans Yves de Benoît Forjard avec William Legbill et Philippe Catherine. En 2019, donc le film dont je t'ai parlé tout à l'heure, La Belle Époque de Nicolas Bedos avec Daniel Auteuil et Guillaume Canet. C'est vrai que Guillaume Canet joue son petit ami dans le film.
D'accord.
Voilà, si t'as l'occasion de le voir, franchement,
ouais,
c'est bluffant.
Je note, hein, ouais,
c'est bluffant et très très bien réalisé. Ouais. Hein, Nicolas Bedos, quand même, je trouve que c'est quand même un bon réalisateur.
Voilà, Nicolas Bedos, on savait dans la vraie vie, en fait. Était le mari de.
Était le compagnon de Doria Tillier. Voilà, oui, exact. Oui, c'est exact. C'est exact. En 2019, on va l'avoir dans Canaille de Christophe Offenstein avec François Cluzet et José Garcia. En 2020, on la verra dans Viens, je t'emmène d'Alain Guiraudy avec Jean-Charles Clichet et Noémie Lvovsky. En 2021, on la voit dans Président d'Anne Fontaine avec Jean Dujardin et Grégory Gadebois. C'est là où il joue Sarkozy
oui,
et
c'est
Hollande. Eh bien, elle joue dedans.
D'accord.
En 2022, elle joue dans Le règne animal de Sébastien Marmier avec Laure Calamy et Dominique Blanc. Et toujours en 2022, elle jouera dans le film de Quentin Dupieux, Fumer fait tousser, avec Gilles Lelouch et Vincent Lacoste. Donc voilà quelques films dans lesquels elle a tourné, ça fait pas beaucoup. Là, par contre, c'est tous ces films-là. Par contre, j'ai pris toute la filmographie. Hein. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est 9 films. Hein. Elle est au début de sa carrière, Doria Tillier. Et je pense que voilà, c'est que le début. Hein.
Voilà, c'est 1m80 précisément.
1m80, je la voyais vachement plus grande. Parce que c'est qu'à chaque fois, elle a des talons et tout, c'est bluffant. Sa biographie, qui es-tu, Doria Tillier? D'où viens-tu? Alors, Doria Tillier se passionne pour la comédie dès l'âge de 6 ans, quand elle découvre le théâtre pour la première fois. Après ses études, elle gagne sa vie en étant serveuse avant d'intégrer le laboratoire de l'acteur créé par Hélène Zidi. Après des apparitions dans des petits rôles à la télévision, dans des publicités et des courts-métrages, Doria devient la nouvelle Miss Météo de Canal+, en 2012, et réalise un de ses rêves. La comédienne tiendra sa chronique durant 2 ans jusqu'en 2014. En 2017, l'actrice tient son premier rôle principal au cinéma dans Monsieur et Madame Adelman. Elle y incarne Sarah Adelman aux côtés de son compagnon Nicolas Bedos. A noter que Doria est aussi la co-scénariste du film, comme j'ai dit tout à l'heure. Le film raconte l'histoire de Sarah et Victor Adelman et s'étend sur 45 ans. Qui était vraiment cette femme énigmatique vivant dans l'ombre de son mari? Amour et ambition, trahison et secret nourrissent cette odyssée d'un couple hors du commun. Et c'est vrai que c'est une sacrée odyssée, hein, parce qu'on se balade vraiment dans les époques. Doria rejoint ensuite le casting de la comédie Le Jeu avec Bérénice Bejo, Roche Dizem et Vincent Elbaz. Le temps d'un dîner. Et oui, c'est vrai, Le Jeu. C'est vrai qu'il était cocasse. On l'a passé à la vraie, celui-là. Le temps d'un dîner, des couples d'amis décident de jouer à un jeu. Chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel téléphonique, mail, message Facebook, etc. devra être partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que ce jeu se transforme en cauchemar. En 2019, la jeune femme incarne So, mystérieuse enquêtrice pour le compte de la start-up Digital Cool dans Eve. Elle persuade Jérém, qui est joué par William Legbill, de prendre à laisser Eve un réfrigérateur intelligent censé lui simplifier la vie. L'actrice retrouve ensuite son compagnon Nicolas Bedos pour tourner La Belle Époque, dans lequel elle donne la réplique à Daniel Auteuil. Là, il est grandiose, Daniel Auteuil.
Oui.
Un grand. Et pareil, Pierre Arditi aussi dedans. Très très bon rôle. Cette romance très esthétique au casting 4 étoiles connaît un joli succès en salle, réalisant plus de 1,2 million d'entrées. Alors La Belle Époque, on l'a joué effectivement à l'ouverture de la brèche. À l'ouverture du cinéma, c'était le premier film qu'on a joué.
Je me rappelle.
Oui, oui, qui a fait un gros carton. On la voit ensuite dans Président d'Anne Fontaine, où Jean Dujardin et Grégory Gadebois jouent Nicolas Sarkozy et François Hollande. Puis dans la comédie Viens, je t'emmène et la comédie dramatique Canaille. Dans cette dernière, elle enquête sur le gangster François Cluzet et le professeur d'histoire José Garcia. En 2022, elle joue la demi-sœur de Laure Calamine dans le thriller L'Origine du Mal et rejoint le déjanté Fumé fait tousser de Quentin Dupieux. Dans un tout autre registre, donc Vincent Perrage lui offre le rôle féminin principal de son 4e long métrage, un film d'époque dont on a parlé tout à l'heure, Une affaire d'honneur. Et effectivement, elle interprète une féministe apprenant l'art complexe de duel à l'épée, en compagnie donc de Roche Dizem, qui est maître d'armes. Donc. Voilà un petit peu pour la toute petite biographie de.
Mais c'est
voilà,
toujours intéressant.
Une petite biographie pour une grande dame.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis je pense voilà. Que comme tu disais il y a quelques instants, voilà, c'est une femme qui va, à mon avis, évoluer encore.
Et bien sûr.
Qu'on verra bien dans sûr. D'autres projets. On aura bien sûr hâte de la redécouvrir sur les écrans très prochainement à la brèche. Merci Pascal pour ce rendez-vous. On arrive déjà au terme de l'émission. Le temps passe vite. On rappelle. Le rendez-vous essentiel à la brèche,
ah
ça,
oui,
sera donc, ça sera donc ce samedi.
Samedi 13 janvier à 14h30, 14 jours pour aller mieux à la brèche. Ça sera un ciné-rencontre, une avant-première,
ouais.
Avec Maxime Gasteuil.
Très important.
Voilà. Et Édouard Pluvieux, le réalisateur du film.
Voilà, si vous avez envie de le rencontrer, si vous avez envie d'échanger et d'écouter,
ouais.
Voilà.
Mais moi, je pense que ça va être le maxi rush à la caisse pour grappiller les places qui restent.
Ouais.
Ah, on a une salle qui
on
fait.
On peut le faire sur Internet. Hein,
on peut le faire sur Internet, oui, oui. Donc il y a 245 places, je crois qu'il reste moins de 100 places.
Ouais.
Et ça va aller très vite. Hein.
Donc
voilà, donc je vous invite
tapoter.
Tous, ouais, venez vous marrer, venez voir Maxime Gasteuil, venez voir un petit peu et découvrir son film. Hein.
Merci Pascal pour
Merci
ce rendez-vous
Christophe.
Et je te laisse le mot de la fin.
Eh bien, prenez soin des vôtres, regardez-moi la télé, écoutez Radio Grand Air et bien venez voir Maxime Gasteuil samedi 13 à 14h30 à la brèche, on vous attend nombreux.
Merci
à
Pascal,
bientôt, Christophe.
À la semaine prochaine.